Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Le musée Marmottan, au bout du jardin du Ranelagh, quand on le traverse depuis la chaussée de la Muette, est un écrin qui renferme la plus belle collection de Monet et la plus vaste collection de Berthe Morisot, car les descendants de l'artiste, ayant souhaité qu'il abrite le premier fonds mondial de son œuvre, leur a transmis beaucoup de sublimes toiles, paysages de Normandie, marines niçoises, jardins fleuris et portraits de jeunes filles en fleurs, retrace son évolution artistique, son goût pour les couleurs claires et pastels, son don pour le dessin et sa liberté de facture ont fait l'admiration de ses amis. 25 peintures, 65 aquarelles, pastels et dessins constituent l'unique ensemble muséal permettant d'embrasser l'œuvre de ce grand maître. Élève de Corot, muse de Manet, Berthe Morisot s'impose comme la première femme impressionniste et sera aux côtés de Monet, Renoir, Degas, Pissarro, l'un des principaux membres du groupe. Contrairement à ses collègues, elle ne vendra que peu de toiles, ce qui explique qu'elle soit aujourd'hui encore peu représentée dans les musées. Alors, elle est née à Bourges en 1841, Bourges, vous savez, qui sera capitale européenne de la culture en 2027. Son père est le préfet du Cher et lorsqu'il sera nommé en 1885 à la Cour des comptes, il s'installe avec sa famille dans le village de Passy, précisément rue Franklin. Les filles, Berthe, Yves, Emma, oui, Yves à l'époque est aussi un prénom féminin. Les filles donc reçoivent une éducation bourgeoise, tournée vers les arts. Berthe est la plus rebelle et la plus douée des trois. Elles prennent des cours avec Joseph Guichard, puis successivement avec Fantin Latour, Oudinot et Corot. Elles exposent au Salon de peinture et de sculpture en 1864, et non au Salon des refusés, qui se tenait au Palais de l'Industrie, l'actuel Palais de la Découverte. Corot les présente à Daubigny, Daumier, à Zola, qui signait des critiques d'histoire de l'art sous le nom de Claude. Les parents Morisot sont des bourgeois mondains avant-gardistes. Ils reçoivent Jules Ferry, les Manet, les Degas, où l'on croisait Charles Baudelaire, Emmanuel Chabrier, Charles Cros, Pierre Puvis de Chavannes. Degas tombe amoureux d'Emma Morisot, qui épousera 2 ans plus tard un officier de marine, ami de Manet, et Yves se marie avec un fonctionnaire manchot. Ainsi, Berthe se retrouve-t-elle seule à poursuivre son œuvre. Elle se lie de plus en plus au Manet et doit retoucher ses tableaux, ce qui énerve la jeune artiste d'ailleurs, qui finit par épouser le frère, Eugène Manet, en l'église Notre-Dame-de-Grâce de Passy. Il a 8 ans de plus qu'elle, peintre lui-même mais sans notoriété. Il encourage sa femme et la pousse dans le milieu. Alors elle participe au premier salon des impressionnistes organisé par Renoir dans l'atelier de Nadar, le photographe, atelier qu'il loue. Berthe Morisot est la seule femme de la bande. Un journaliste écrit « Il y a aussi une femme dans le groupe, comme dans toutes les bandes fameuses. Elle s'appelle Berthe Morisot et est curieuse à observer. Chez elle, la grâce féminine se maintient au milieu des débordements d'un esprit en délire. Elle participera, imaginez-vous, à 7 des 8 expositions du groupe d'amis. C'est une œuvre considérable et une peinture singulière et personnelle. Mais alors, le 18e siècle dans tout cela, parce que nous allons voir au musée Marmottan une exposition qui s'appelle Berthe Morisot et l'art du 18e siècle. Je vous l'ai dit, avec Emma, sa sœur, Berthe fréquentait Fantin-Latour au Louvre et notamment où le peintre ne cessait pas de copier, de recopier. Et c'est avec lui qu'elle découvrit la peinture du 18e, celle de Fragonard, qu'on a dit un temps de sa famille, mais c'est une légende comme on les aime. Fragonard, 1732-1808, mais aussi Watteau ou Boucher, on trouve dans sa peinture l'éloge du bonheur et de la grâce, selon le 18e siècle. Alors, Mélina de Courcy, ouvrons les portes de Marmottan, vous nous y emmenez.
Eh bien, je vous y emmène, Christophe, pour faire une découverte. Parce que pour moi, Berthe Morisot, c'était la rebelle qui ne veut pas se marier.
Oui.
C'était celle qui signe de son nom de jeune fille une fois mariée. Mmh. C'était la seule femme impressionniste de la bande qui organise la première exposition en 1874 chez Nadar. Mmh. C'était la plus douée de tous les autres, évidemment, puisque c'est une femme, donc forcément. Mmh. Et d'ailleurs, un art assez viril, en tout cas très libre. Et donc, c'est une découverte totale que cet art de Berthe Morisot s'est appuyé pour... Alors là, je vais essayer de parler doucement et de ne pas m'emballer parce que ma pensée est encore tout imprégnée de cette découverte. Donc, c'est tout frais dans mon esprit. Mais disons que cette jeune femme s'est rapprochée du 18e siècle à plusieurs moments de sa vie, selon plusieurs axes et plusieurs fils conducteurs. Et cet art du 18e siècle dont elle a saisi des instantanés, des détails, elle l'a réimaginé, elle l'a recomposé, et ça fait partie de sa singularité d'impressionniste. Voilà, je ne sais pas si ce que j'essaie de vous dire est clair, mais ce que c'est ça que j'ai perçu.
Alors, elle partageait avec son mari, Eugène, une passion pour le 18e, et notamment pour l'Apollon révélant sa divinité à la bergère Issée, où on a... Alors, c'est exposé chez à Marmottan, à droite, on a le tableau de François Boucher de 1750, et à gauche, celui de Berthe Morisot de 1892, qui est une belle copie du couple enlacé dans une interprétation onirique et gracieuse. Et on s'aperçoit que tout le reste ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est juste ce couple. Et c'est presque une copie. Mais le plus intéressant, c'est l'autour de la copie, qui est vraiment tout ce que Berthe Morisot a en elle.
C'est vrai. Alors, il y a cet aspect-là des choses, par exemple. Il y a aussi un autre aspect qui est d'ordre familial. Alors, moi, j'ai découvert cet aspect-là de la famille. Donc, vous avez très bien décrit cette famille et son ambiance bourgeoise et très, très pleine d'amour, d'une famille unie, etc. En fait, le père de Berthe Morisot, tout préfet qu'il était, s'occupait aussi des monuments historiques et cherchait à faire des collectionner les œuvres du 18e. J'ai réalisé qu'en fait, Berthe Morisot, qui pour moi était dans le 19e, dans la période du progrès, du développement, de l'industrie, etc. en France, n'avait que 50 ans d'écart avec la Révolution, avec la prise de la Bastille. Donc finalement, une génération, ses parents et ses grands-parents. Et qu'en fait, dans sa famille, on vénérait cet art du 18e. Donc, elle est née, elle a grandi au milieu d'œuvres d'art, de tableaux qui font partie de sa mémoire personnelle. Voilà, premièrement. Deuxièmement, elle a rencontré Riesner, le descendant de l'ébéniste fameux, Rococo, Rocaille de la Régence. Et ce Riesner est un pastelliste extraordinaire. Elle a pris des cours chez lui parce qu'elle a découvert le pastel et j'avais pas pris la mesure encore une fois de cette dimension-là dans son art et qu'avec le pastel, elle s'est approchée des grands maîtres du 18e, par exemple Perronneau, grand portraitiste. Donc on a par exemple un très joli pastel d'une jeune fille endormie qui n'est autre que sa fille Julie Manet.
Formidable.
Le torse nu ravissante, cette féminité naissante avec cette tête complètement abandonnée sur un gros coussin soyeux rose sur un fond indéfini, indéterminé, mais on a la carnation de cette jeune femme absolument ravissante. Voilà. Qui est une huile, mais qui s'inspire, qui est rapprochée dans l'exposition d'un portrait de Madame Perronneau endormie, de Jean-Baptiste Perronneau, de 1766.
Et alors on a les deux jeunes filles endormies, à droite Perronneau. C'est Perronneau ou c'est François Boucher ?
Non, c'est Perronneau.
C'est Perronneau. À droite, on a Perronneau, et à gauche, on a Berthe Morisot. Et la jeune fille de Berthe Morisot est beaucoup plus naturelle, elle est moins érotique, et elle est plus jeune.
Oui.
Et c'est très étonnant, parce qu'il y a vraiment de la nature là.
C'est ça. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce qui fait la peinture du XVIIIe siècle qu'on connaît, qui a été honni par le gouvernement, etc., ouais, parce que c'était la peinture qui présentait la frivolité de l'Ancien Régime, les fêtes galantes, le libertinage, cette vie dorée, cette vie où on ne s'occupait pas du peuple, cette vie qui a été envoyée cul par-dessus tête par la Révolution, donc on ne voulait plus entendre parler de cette peinture. Et Berthe Morisot nous est connue non pas par cette accointance-là, mais par les impressionnistes qui sont des rebelles, qui sont des anticonformistes, qui refusent l'art de l'Académie et le lissent. Donc, et elle va trouver des sources d'inspiration, encore une fois, des détails, c'est pas de la copie, et c'est assez finement exprimé dans l'exposition, je trouve, où tout ce qu'elle a reçu, qu'elle a vu, chez ce Riesner, le pastelliste, il habite un hôtel particulier absolument somptueux, totalement rocaille, où il y a des tapisseries de boucher, où habite en dessous, au premier étage, une peintre qui n'est autre que Marcello, c'est-à-dire une femme qui prend en fait de l'aristocratie et qui prend un nom de plume, enfin de pinceau, et qui fait un portrait, qui elle aussi est férue de cet art aristocratique du 18e, et qui fait un portrait de Berthe Morisot absolument extraordinaire, en 1875, pratiquement grandeur nature, un portrait de Berthe Morisot dans une robe décolletée de soirée, en soie dragée, rose, on est dans du Watteau pur jus, Une Berthe Morisot au décolleté pigeonnant, plongeant, avec une coiffure tout à fait apprêtée. C'est pas comme ça qu'on la voit, Berthe Morisot, non. Sous le pinceau de Manet. C'est la rebelle pas coiffée. Mmh. Bon, elle tient un éventail.
Ah, c'est la fille du préfet.
Ah, c'est la fille du préfet, avec l'éventail à la main. Oui.
C'est la première fois que le tableau est présenté à Paris. Hein.
Ah, mais c'est extraordinaire, c'est complètement incongru. Mais moi, j'ai passé 10 minutes devant ce tableau, j'ai dit, mais est-ce que c'est bien la bonne personne que je regarde? Enfin, qui est-ce? C'est fou. Donc, c'est intéressant pour ça, cette exposition, parce que, je dirais, ça complète la perception qu'on a de cet artiste et de son œuvre. Et je reviens sur quelque chose que vous avez dit, qui est qu'elle n'est pas beaucoup représentée dans les musées. Pourquoi? Parce qu'elle a peu vendu de son vivant, et que donc, en fait, elle a été collectionnée après sa mort en 1895 par des amoureux du XVIIIe siècle. Notamment les Goncourt, collectionneurs privés, notamment les Goncourt, qui avaient acheté à bas prix, des œuvres de Fragonard, de Chardin, de Boucher, de Watteau, parce que ça n'avait plus aucune valeur, et qui étaient amoureux de cet art de vivre. Et que Berthe Morisot, en fait, a saisi dans les accents de sa peinture impressionniste.
Alors, moi, j'ai été frappé par des toiles, par exemple, Sous-bois en automne, qui a été peint en 1894. On est presque dans l'abstraction.
Oui.
Et on est presque dans l'abstraction, comme on a l'abstraction des nymphéas de Monet. Et on a cette recherche de couleurs. Et alors, je prends la photo avec mon téléphone portable, naturellement. Et je regarde la photo sur mon téléphone portable et je vois des sous-bois parfaits. C'est étonnant. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a deux lectures. Si on est trop près du tableau, bien entendu, on voit tout le travail minutieux. Et avec beaucoup de recul, ou avec une photo sur votre téléphone, vous voyez vraiment ce qu'elle voulait dire. Et j'ai trouvé que cette maîtrise de la distance m'a particulièrement frappé. Il faut dire pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, lorsqu'on arrive dans Marmottan, vous avez un panneau qui vous dit que Morisot est à l'étage, au premier étage. Mais vous avez l'exposition Morisot du XVIIIe siècle qui est tout droit à droite. Donc ne commencez pas par monter à l'étage, ce que je fis.
Moi aussi.
Voilà. Allez vraiment à l'exposition Morisot et Berthe Morisot et le XVIIIe siècle. Et ensuite, en effet, allez dans les collections permanentes où là, vous voyez énormément d'autres choses. J'étais frappé par ailleurs, Mélina de Courcy. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de garçons, il n'y a que des femmes et des filles.
Il y a Eugène.
Oui, c'est tout.
Oui, il y a Eugène. Alors
mais il n'y a pas son frère.
Non.
Il n'y a pas son frère, il n'y a pas son père. Il n'y a pas d'hommes.
Non, non, c'est vrai. C'est l'univers de cette femme qui est attirée par la féminité.
Oui.
Pas du tout à la manière d'une Vigée Lebrun où on a des portraits de femmes dans leurs intérieurs, parce qu'il y a des scènes intérieures comme par exemple cette femme à sa toilette. Mais il y a aussi le bois de Boulogne où sa fille est avec un chien. Bon. Mais c'est un univers féminin parce que ce qui l'intéresse, et ça c'est très moderne, c'est là où elle appartient bien à son siècle et à son mouvement impressionniste. Ce qui l'intéresse, ce sont les descriptions du quotidien où les femmes posent un geste. Alors ça peut être un geste d'une femme à sa toilette. Ici, nous avons, vers 1875-80, cette huile sur toile qui nous fait penser à Boucher, où cette femme de dos, une robe décolletée, une des bretelles descend de l'épaule. On ne voit pas son reflet dans le miroir qui est à sa gauche, mais sa robe aux accents très nacrés joue dans la lumière sur le fond de tapisserie fleurie. Cette tapisserie fleurie se reflète dans le miroir, donc il y a toute une ambiance très intime de boudoir, de parfum, de poudre, de bijoux, de peigne, de robe, de dentelle, qui est propre vraiment au 18e, qui renvoie directement aux femmes de Boucher, qu'il peignait allègrement par touches rapides. Vous savez que Boucher aimait beaucoup l'esquisse, et en fait les esquisses, elle c'est exactement comme ça qu'elle peint. Berthe Morisot, elle fait un travail de composition, mais elle travaille non finito, et ça c'est quelque chose que Fragonard aussi utilisait beaucoup. Donc c'est propre au 18e, mais en même temps c'est propre aussi aux impressionnistes. Donc vous voyez, il y a toujours ces espèces d'accointances.
Alors il y a des tableaux plus achevés, plus précis, dans le je pense à la la jeune femme arrosant son arbuste. 1876, on voit une femme de dos dans une robe blanche qu'elle relève du bras droit et du bras gauche. Elle a son seau et elle arrose l'arbuste. On ne sait pas si elle est sur une terrasse ou dans un jardin, vraisemblablement une terrasse, parce qu'on aperçoit des toits au fond et une chaise qui est vide. Et ça semble très humide et très froid, cette toile. On est pratiquement, je pense, en hiver. Et c'est une toile de, qu'est-ce que je vous ai dit, de 1876. Là, on n'est pas du tout dans les années, dans les années 90.
Non, alors c'est ça, magnifique. C'est magnifique. C'est typiquement impressionniste comme, oui, comme motif. Une femme tout à fait vue... le peintre est plus bas que le personnage. On aperçoit les toits de Paris au loin, avec le ciel gris un peu humide, comme vous le disiez. On est vraiment dans l'esprit impressionniste. Ça pourrait être un motif peint par Caillebotte, par exemple.
Ah, vous voyez, tout à fait.
Voilà. Mais ce tableau-là, que vous avez judicieusement choisi, Christophe, il est mis en regard des plaisirs du bal de Watteau.
Voilà.
Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Les plaisirs du bal de Watteau, qui est à la Dulwich Picture Gallery à Londres, où qui a contribué à cette exposition très largement, met en scène sous des arcades à l'antique, donnant sur un jardin où jaillit une fontaine, une fête galante. Où danse un jeune homme face à une jeune femme qui s'apprête sans doute à entrer dans la danse en tenant la robe et en l'écartant de sa main gauche. Et on s'aperçoit que cette figure de Watteau est tout à fait reprise, ou en tout cas a peut-être inspiré cette figure de la jeune femme arrosant un arbuste de Berthe Morisot. Même vue de dos, même mouvement de la robe, même posture de dos qui nous empêche de voir le visage, mais la coiffure est indicative, elle est très similaire. Cette personne est en train de faire un mouvement, un geste, et à partir de ce personnage qui est dans les fêtes galantes de Watteau qu'on connaît bien, Berthe Morisot crée une vision comme un portrait, c'est sa sœur qu'elle représente d'ailleurs, de dos, avec cette robe grise aux accents blancs. On voit bien là la touche impressionniste, la touche rapide, la touche non finito.
Mais c'est plus prosaïque.
Mais c'est beaucoup plus prosaïque.
On est dans le prosaïsme du quotidien. Là.
Et ça n'est certainement pas un produit fini et léché comme l'art de Watteau, mais nous avons les accents, les nuances, les éclats, la chair, les fleurs, la nature, l'architecture intérieure et extérieure, puisque nous sommes à la fois sur un balcon, mais encore un peu à l'abri des murs de l'immeuble, et la terrasse se développe devant, exactement comme pour Watteau, où ce bal se joue sous des arcades avec un pavement qui s'est prolongé par de l'herbe, la nature et les frondaisons des arbres à l'extérieur. Donc on a tout le temps finalement ce dialogue. Je dois dire qu'avec Watteau, c'est particulièrement intéressant, mais il y a vraiment aussi la question de Fragonard.
Oui.
D'autant plus que on a tellement dit que Morisot était héritière de Fragonard, que vous l'avez aussi dit dans votre introduction, qu'on a tout à fait
on a
à tort,
la légende.
Et pas du tout à raison, inventé une parenté qui n'existe pas. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que en 1880, cinquième exposition impressionniste. Berthe Morisot a participé à toutes sauf à une, puisqu'elle venait d'avoir sa fille Julie, elle était fatiguée. Et donc, à ce moment-là, la vente de la collection Walferdine rassemblait plusieurs dizaines de toiles de Fragonard, et ça a eu lieu à ce moment-là. Et en fait, le style enlevé de Berthe Morisot évoquait cette même grâce qu'on note dans les tableaux de Fragonard. Devant ses femmes à la toilette, qu'elle a beaucoup fait. Par exemple, le portrait de Louise Riesner est mis ici en regard d'œuvres de Fragonard. Ce portrait de Louise Riesner par Morisot date de 1888, c'est une huile sur toile. Nous avons cette jeune femme de face, adossée à une petite table de toilette absolument ravissante, de style marqueterie 18e, pur jus, régence, comme il devait y en avoir pléthore chez Riesner. Et elle regarde de face Berthe Morisot en posant avec ce grand décolleté, une peau complètement nacrée, ce turquoise de la robe qui se répercute sur le mur du fond. On a tout à fait cette ambiance légère, frivole de Fragonard. Et en même temps, on est bien dans du Berthe Morisot, une femme de son époque qui peint une jeune femme de son époque.
Alors ne croyez pas que c'est une vision artificielle du musée de Marmottan pour constituer cette exposition. À la cinquième exposition impressionniste, en avril 1880, la critique se donne le mot pour comparer Morisot à Fragonard. Et là, je cite, c'est dans le journal de Trianon, « Ces ébauches rappellent sans la moindre servilité, mais avec une sorte de filiation spirituelle, les plus charmantes ébauches de Fragonard. Elle est d'ailleurs très moderne, de type et d'accent. Sa jeune fille en toilette de bal dans un jardin, sa jeune femme au manchon, surtout sa jeune fille au miroir, une chose exquise, la met hors ligne et lui impose le devoir de ne pas s'arrêter là. » Donc on l'encourage. Disant « Oh ben la petite, elle a du Fragonard dans les doigts. » Donc c'est écrit en avril 1880.
C'est ça. Alors ça veut dire que quand même les amateurs un peu cachés, un peu isolés du 18e siècle, ont reconnu dans l'impressionnisme de Morisot cette touche libertine, on peut dire, et pourtant la peinture de Morisot ne l'est pas du tout, mais ces accents de libertinage qui caractérisent la peinture 18e et notamment celle de Fragonard, et qui sont en fait un procédé moderne chez Morisot. C'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'on a besoin de mûrir par rapport à cette exposition, dans notre acception de son art et de son œuvre, et de sa personne aussi. C'est qu'elle dit « Je suis terriblement attachée aux choses de jadis, et je n'aime que les choses de modernes. » Donc en fait, elle fait ce lien, ce grand pas, c'est comme un pont entre cet art du 18e très raffiné, un art de vivre qui a fait l'art à la française, finalement. Hein.
Oui.
Cet art du 18e, c'est ce qui a fait l'art à la française. C'est ce qui s'est exporté dans toute l'Europe. Cette mode de vie, cet art de vivre à la française, eh bien, elle en a capté les accents les plus prégnants, mais elle les introduit dans une peinture qui est résolument moderne.
Et résolument moderne et joyeuse.
Et joyeuse.
Je me suis arrêté longtemps devant Les enfants à la vasque, une huile sur toile de 1886, où vous voyez deux enfants qui sont en train de jouer. Et alors, regardez, ce qui est merveilleux, c'est le poisson rouge qui est à l'intérieur de la vasque. Et là, je vois ce poisson rouge, naturellement, je pense à
Matisse.
Eh oui, évidemment. Et regardez le jeu des regards. Les deux enfants regardent la vasque. L'une à gauche est en train de lever son bras pour pouvoir peut-être taper dans l'eau, parce que c'est très amusant de taper dans l'eau. Et l'autre qui semble goûter l'eau, au contraire. Et je suis resté longtemps devant cette toile parce qu'elle est absolument charmante. On est vraiment dans l'enfance. Et regardez comme les robes sont juste esquissées. C'est juste quelques traits de pinceau. C'est remarquable. Et pour revenir au 18e siècle, il y a quelque chose qui est fondamental entre le 18e et Berthe Morisot, c'est que c'est joyeux.
Oui.
Il n'y a rien de tragique.
Mais c'est ça, c'est la liberté.
Oui.
Alors, la liberté qui prend les accents de libertinage au 18e, mais c'est pas ça chez Berthe Morisot, c'est cette liberté de la touche aussi. Là, elle a copié, par exemple, d'après François Boucher, Vénus va demander des armes à Vulcain, deux femmes sur un nuage. On imagine bien comment Boucher a pu rendre ça,
oui.
Dans des roses, etc. Bon, alors elle capte ce qu'elle capte, c'est la volupté des chairs, bien sûr, la beauté du corps féminin qu'elle a tout à fait exalté, mais c'est ce non finito, cette espèce de joie, de dynamisme en fait. Une peinture très dynamique, très joyeuse, très enlevée, et aussi avec des accents nacrés, colorés aussi, qui est en fait jouissive, enfin on va le dire, c'est
bien
jouissif.
Sûr, bien sûr.
Hein, voilà.
Vous parliez de la naissance de sa fille Julie, elle va arrêter de peindre au moment de la naissance de Julie. Et pour rester dans la peinture, elle va poser pour son mari. C'est Eugène.
Oui.
Donc elle reste toujours dans l'univers pictural, elle est tout le temps dans la création,
oui.
Jusqu'à proposer son corps au regard du peintre pour un tableau, et qui va le magnifier, parce que c'est forcément Eugène.
Tout à fait. Alors il y a un tableau qui m'a totalement séduite, c'est La fillette à la mandoline. C'est au moment où elle découvre le pastel.
Oui.
Ça, c'est un moment qui est un tournant dans son œuvre.
Absolument.
Hein, quand même. Un vrai, véritable tournant. Elle ne fera plus un tableau à l'huile sans avoir préalablement réalisé la composition au pastel. Et il y a une dextérité extraordinaire dans cet art du pastel, où elle mêle d'ailleurs parfois pastel et huile dans des œuvres, où elle tire le pastel avec de de l'huile, elle obtient des transparences, des effets nacrés, des effets qui accrochent la lumière, qui sont absolument sublimes. Et cette fillette à la mandoline est d'une beauté sans nom. 1890, c'est une collection privée. Une fillette ravissante dont les cheveux sont tenus par une fleur blanche. Et curieusement, son visage est recouvert d'une poudre blanche, comme si elle portait un masque. Elle joue cette mandoline et le contour de la fillette est relativement dessiné au niveau du visage, du corps, de la position des mains sur l'instrument, mais tout le reste est vibrionnant.
Complètement éclaté.
Et on a l'impression que ce sont les notes de musique qui explosent la pièce, qui l'envahissent, qui vibrent, et du coup plus rien n'est normal, plus rien n'est figé, plus rien n'est droit, tout vibre au son de cette musique.
Et ça c'est très moderne.
Et ça c'est très moderne, c'est sublime.
Et on est en quelle année ?
1890.
Vous imaginez ?
C'est formidable.
Et alors, non seulement dans l'exposition à Marmottan, on rencontre une peinture, on rencontre un dialogue du 18e et du... un dialogue du 18e et du 19e.
Oui.
Mais on rencontre une femme, on rencontre un tempérament, on rencontre une personne très importante. Et c'est... Et c'est Berthe Morisot, et l'art du 18e siècle, Watteau, Boucher, Fragonard, Perronneau. Mélina, merci infiniment pour votre visite. Il faut féliciter les commissaires de l'exposition, Marianne Mathieu et Dominique Darnoux, pour cet accrochage, certes classique, mais qui a le mérite d'être clair et de nous laisser le temps, avec le recul, de regarder, d'observer, de se laisser happer par ces couleurs de plus en plus claires. L'exposition se tient jusqu'au 24 mars au musée Marmottan, c'est de rue Louis Boyer, dans le 16e. Merci encore, Mélina de Courcy. Merci Alexandre, Philippe, François, Louis-Marie et Camille pour la réalisation technique de cette émission. Demain mardi, jour de la littérature, je recevrai Frédéric Viguier pour son roman La vérité n'aura pas lieu, publié chez Plon. Un très bon livre, vous l'entendrez. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse.